Radio Prague, les informations. Bonjour, le vote du paquet fiscal a été reporté à la semaine prochaine. Nucléaire, appel d'offres pour la centrale de Temelines, les contestations d'Areva ont été rejetées. Et puis enfin, l'Union européenne a décidé de renouveler ses subventions à la République tchèque. Comme annoncé en titre, les députés ont interrompu ce mardi la séance au cours de laquelle devait se tenir le vote du paquet de mesures fiscales présenté par le ministre des Finances. Le vote est par conséquent reporté à mardi prochain, soit après le congrès du Parti civique démocrate ODS qui se tiendra ce week-end. Ce report a été demandé par les représentants ODS, principale formation de la coalition gouvernementale, dont 6 députés sont opposés, rappelons-le, à l'adoption de certaines mesures figurant dans le paquet et notamment l'augmentation d'un point à 15 et 21% des taux de TVA prévus dans le projet initial. Le cabinet ne disposant que d'une très faible majorité à la Chambre des députés, les 6 députés en question avaient déjà empêché l'adoption du paquet fiscal début septembre. Celle-ci est toutefois indispensable dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2013. Par ailleurs, le gouvernement a également lié l'adoption de cette réforme fiscale à un vote de confiance. Politique toujours, 4 des 7 assemblées régionales du parti de droite ODS ont décidé de confirmer Petr Nečas à son poste de président de la principale formation de la coalition gouvernementale, et ce en prévision du congrès du parti qui doit donc se tenir ce week-end à Brno. 3 autres régions ont préféré ne pas se prononcer, alors que les critiques à l'égard du chef du gouvernement fragilisé se font de plus en plus entendre, parfois au sein même du parti. Ainsi, certains députés ODS, comme nous venons de l'annoncer, poursuivent leur fronde contre le projet gouvernemental d'augmentation des taux de TVA. Par ailleurs, même si Petr Nečas s'est reconduit dans ses fonctions ce week-end, les militants attendent des changements dans les sphères dirigeantes du parti. La société d'énergie tchèque ČEZ a rejeté les contestations du géant du nucléaire français Areva suite à son élimination de l'appel d'offres pour la construction de 2 nouveaux réacteurs à la centrale de Temelines en Bohême du Sud. Le porte-parole de ČEZ a déclaré que l'appel d'offres est soumis à la même législation que les commandes publiques. Or, l'offre d'Areva n'aurait pas satisfait plusieurs points de cette législation et devait donc être écartée. Toujours selon le porte-parole de ČEZ, la société tchèque a fourni les raisons exactes et détaillées de sa décision. Il y a quelques jours, le quotidien Lada Fronta Dnes écrivait qu'Areva n'aurait pas été en mesure de garantir un prix fixe de livraison et n'aurait pas respecté la législation tchèque relative à l'énergie atomique. La Commission européenne a décidé de renouveler le versement à la République tchèque de subventions dans le cadre des programmes opérationnels pour l'environnement et pour le transport, le tout pour un total de 43 milliards de couronnes, soit environ 1,7 milliard d'euros. Le porte-parole du ministère des Finances a déclaré que la Commission avait accepté de rembourser le montant des aides qu'elle avait suspendues à la mi-2011 du fait de doutes récurrents sur la gestion et l'utilisation des subventions européennes en République tchèque. Toute une série de programmes, tant à l'échelle nationale que régionales, ont été interrompues. On passe à la culture. Prague va se porter candidate au titre de ville créatrice de l'UNESCO de littérature. Le conseil municipal a approuvé ce mardi le document comportant l'inscription de la capitale tchèque au réseau international des villes créatives. Cette candidature est soutenue notamment par l'écrivain italien Umberto Eco. Selon l'UNESCO, ce réseau, fondé en 2004, permet aux villes inscrites de partager leurs expériences, leurs idées et leurs pratiques pour le développement culturel, social et économique. L'objectif de Prague est de mettre en valeur sa riche histoire littéraire, mais aussi de mieux faire connaître sa scène littéraire contemporaine. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable, mais néanmoins plus ensoleillé que ces derniers jours qui règnent sur l'ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Štěpánka. Les températures sont en légère hausse puisqu'elles varient entre 2 et 8 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Václav Richter. Faits et événements en République tchèque.
Les gouvernements tchèques et slovaques réunis en séance commune pour se pencher entre autres sur l'énergie nucléaire et la coopération militaire. La chanteuse tchèque Marta Kubišová reçoit de l'ambassadeur de France en République tchèque les insignes de l'ordre national de la Légion d'honneur. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique Panorama, dans le cadre de laquelle Anne-Claire Veluire vous présentera Veronika Janatková, productrice de films documentaires. Merci de rester fidèle à Radio Prague et bonne écoute. Vingt ans après le divorce de velours qui a marqué la fin de la Tchécoslovaquie et la naissance de deux États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie, les deux voisins semblent vivre une véritable idylle. Les gouvernements au complet des deux pays se sont rencontrés ce lundi, une journée qui a permis à Petr Nečas et Robert Fico d'afficher des positions communes tant sur l'énergie nucléaire que sur la coopération militaire ou encore de trouver un accord sur le prolongement du canal de Bakia. Pierre Maignan.
Comme au temps de la défunte Tchécoslovaquie, les hymnes tchèques et slovaques ont à nouveau retenti l'un après l'autre lundi, d'abord à Uherské Hradiště, au sud-est de la Moravie, le matin, puis à Trenčín, à 70 km plus loin en Slovaquie, l'après-midi. Les gouvernements au complet des deux pays se rencontraient pour la première fois depuis 20 ans. La date est symbolique puisque dimanche, les Tchèques, à la différence des Slovaques, célébraient le 94e anniversaire de la fondation de la première République tchécoslovaque. Cette journée s'est déroulée dans une ambiance visiblement très chaleureuse, mais pas seulement, puisqu'elle a été également marquée par une certaine solennité entre deux États certes indépendants, mais qui partagent toujours une histoire forte, une langue commune et une riche culture, respectueux et égaux l'un vis-à-vis de l'autre. C'était le sens de l'intervention du Premier ministre social-démocrate slovaque Robert Fico en début de réunion, rappelant au passage que la Slovaquie a su s'émanciper de son voisin, un voisin tchèque autrefois dominant.
Notre État indépendant est arrivé à maturité et nous sommes désormais les seuls responsables de nos actes. Nous ne pouvons en vouloir à personne d'autre qu'à nous-mêmes pour nos erreurs. Mais nos victoires sont aussi le fruit de notre travail. Je veux remercier tous les citoyens tchèques pour la compréhension et l'esprit positif avec lesquels ils ont accepté le désir slovaque d'indépendance et de maturité. La Slovaquie indépendante a pour vous les bras ouverts, prêts à vous étreindre.
Passé ce lyrisme introductif, les ministres avaient du pain sur la planche avec l'ambition de signer plusieurs accords de coopération et tout d'abord sur le plan militaire. On écoute le Premier ministre tchèque.
Le domaine dans lequel il y a un potentiel comparativement très important de collaboration et sur lequel nous voulons insister avec M. Fico est celui de la défense et de l'armée. Nous sommes certains qu'il y a là un espace énorme si l'on considère que nos deux pays ont des racines communes, des langues proches et que nos traditions militaires sont très similaires. Par beaucoup d'aspects, nos deux armées sont compatibles et opérantes et nous devons en profiter.
Petr Nečas évoque une coopération renforcée, par exemple, dans le cadre de l'OTAN, quand Robert Fico, qui mène lui aussi une politique d'austérité dans son pays, entend réaliser des économies d'échelle en rapprochant les deux armées. Le secteur de l'énergie constitue le deuxième pôle d'entente entre les deux pays, qui ont réaffirmé leur volonté de développer leur accès à l'énergie nucléaire et de défendre cette position au niveau européen, malgré les protestations de l'Autriche et la décision de l'Allemagne de se passer de cette ressource. Robert Fico.
Nous refusons que les institutions européennes politisent la question de la sécurité de nos centrales nucléaires, car il s'agit d'une question technique. Et nous demandons à nos partenaires européens et à la Commission européenne d'informer honnêtement sur le fait que nos centrales répondent à des normes de très haute sécurité.
Les deux gouvernements veulent peser également auprès de la zone euro, la Slovaquie pouvant relayer dans une certaine mesure la position de la République tchèque qui, contrairement à son voisin, ne fait pas partie du groupe de pays ayant adopté l'euro. D'autres accords ont été trouvés dans le domaine des transports, du tourisme et du sport, tels que le prolongement du canal Batia ou encore la possible organisation en commun des championnats du monde de hockey sur glace en 2015. La plupart de ces déclarations d'intention n'aboutiront sans doute pas. Cependant, l'expérience d'une première rencontre gouvernementale tchécoslovaque semble avoir été concluante pour les deux parties et pourrait être reconduite chaque année.
L'ambassadeur de France en République tchèque, Pierre Lévy, a remis lundi à la chanteuse tchèque Marta Kubišová les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Cette haute décoration est un hommage rendu par la France à l'art de Marta Kubišová, mais aussi une reconnaissance de son autorité morale. Dans la seconde moitié des années 1960, Marta Kubišová est la chanteuse pop la plus populaire sur la scène tchèque et sa voix grave et chaleureuse fait rêver plusieurs générations de public. Ses fans s'arrachent ses disques, elle sait mobiliser les foules. En 1968, durant la période du dégel politique qui apporte aux Tchèques et aux Slovaques l'espoir qu'ils pourront construire un socialisme à visage humain, elle devient tout naturellement un des symboles de ce mouvement libérateur qui entrera dans l'histoire sous le nom de « Printemps de Prague ». Après l'occupation de la Tchécoslovaquie en août 1968, les dirigeants du régime arbitraire instauré par l'occupant dans le pays se rendent compte que la jeune chanteuse est un adversaire de taille et décident de la faire taire. Mais Marta Kubišová ne se laisse pas faire. L'étape la plus sombre de sa vie commence. L'ambassadeur de France, Pierre Lévy, a évoqué cette période dans son discours précédant la remise de l'ordre de la Légion d'honneur.
Pour vous cependant, source d'espoir pour tout un peuple, rayonnante de jeunesse et d'ardeur, vous avez juste 25 ans, le plus bel âge dans la vie, les ténèbres demeurent épais. Lorsque vous recevez en 1970 votre troisième titre de Zlatý Slavik, en l'occurrence le titre de meilleur artiste que vous laissez à le public, c'est-à-dire les auditeurs tchèques et slovaques, je tiens à le préciser aujourd'hui car votre popularité dans ce pays voisin est intacte, vous êtes déjà une paria, une exilée intérieure, une bannie des scènes publiques. Vous serez dénigré, outragé dans votre réputation par des accusations odieuses et des preuves fabriquées. Le lynchage médiatique, la répression au quotidien ne vous découragent pas et vous vous engagez dans l'opposition à ce régime absurde. Dans une énergie vitale, dans une même énergie vitale, j'ai l'impression que votre créativité artistique et votre amour de la liberté se rejoignent.
Marta Kubišová ne se contente donc pas d'une résistance passive au régime qui a mis fin à son espoir de liberté. Elle signe la charte 77, appel au respect des droits de l'homme qui provoque la furie des autorités communistes, et va encore plus loin. En 1977 et 1978, elle devient porte-parole du mouvement de la charte 77 et attire sur elle les foudres du régime. Aujourd'hui, elle explique son engagement sans emphase et avec sa lucidité naturelle.
Ce n'était pas une ardeur, mais c'était une colère saine, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce magnifique régime socialiste puisse écraser une jeune personne. J'avais 26 ans et j'ai pu me dire, d'accord, je vais signer une autocritique et tout ira pour le mieux. Mais il est vrai qu'à cet âge, on résiste plus facilement. C'était beaucoup plus facile pour moi que, par exemple, pour un chercheur ou un médecin qui approche déjà l'âge de la retraite. Quant à moi, ça m'était égal. Je me disais que j'allais vivre différemment. Kteří prostě měli blíž do důchodu. Mně to bylo jedno,
protože já jsem si říkala, budu žít nějak jinak. En 1989, lors de la chute du régime communiste, c'est encore Marta Kubišová qui se retrouvera parmi les proches amis et collaborateurs de Václav Havel, artisan de la révolution de velours. La chanteuse condamnée au mutisme recouvrera la voix et la foule émue de la place Venceslas entendra la prière pour Marta, sa chanson qui symbolisait sous l'occupation soviétique l'espoir des jours meilleurs. Zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Aujourd'hui, Marta Kubišová est toujours présente sur la scène tchèque. Elle chante, elle participe à des activités caritatives, elle s'occupe de la protection des animaux. Elle a déjà reçu plusieurs distinctions et parmi celles-ci, la Légion d'honneur est, comme elle dit, la plus inattendue.
Dans ma vie, j'ai eu l'habitude de toutes sortes de surprises, mais je ne m'attendais absolument pas à cet honneur-là, notamment de la part de ma France adorée. Depuis ma première visite en France dans les années 60, je m'y suis sentie très à l'aise et c'est pourquoi j'admettais devant mes proches amis et seulement devant eux, pas devant les agents de l'Est et B dans le courant des interrogatoires, que si j'étais amenée à quitter mon pays un jour, je ne pourrais vivre qu'en France.
Heureusement, Marta Kubišová n'a pas quitté son pays. La chanteuse qui fêtera le 1er novembre prochain son 70e anniversaire reste toujours avec nous. Étonnamment jeune et pleine d'énergie, comme si elle ne faisait pas déjà partie de l'histoire tchèque. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Véronika Janatková est productrice de films documentaires. Elle travaille beaucoup dans le cadre de projets multinationaux. Elle a présenté cette année dans le Festival de films documentaires de Jihlava un film franco-tchèque sur le vécu des Islandais face à la crise économique Islande année zéro. C'est le titre de ce film qu'elle nous présente au micro d'Anne-Claire Valuir.
Panorama.
Panorama.
Véronika Janatková, tu es productrice de films, notamment de films documentaires. Alors, tu as présenté au Festival de Jihlava un film qui s'appelle Islande, année zéro, un film que je te laisse nous présenter.
C'est un film documentaire que j'ai fait en collaboration avec le réalisateur Sigurdur Jatma Magnusson et Armand Cholanami. Je les ai rencontrés il y a presque 10 ans à Prague pendant ses études à FAMU. Et puis, ils se sont déménagés en France. Et depuis la France, ils ont commencé avec cette idée de faire un film sur l'Islande. En fait, on a commencé de tourner après la crise en 2008. Et le film parle de l'impact de la crise sur les gens. Alors, en fait, on n'a pas voulu faire une analyse de la crise économique, mais plutôt qu'est-ce que ça fait avec des gens, avec une nation qui était une nation capitalistique, et comment les gens se changeaient ses pensées sur les valeurs, et comment ça changeait des gens.
Alors c'est vrai que la crise islandaise, à la fois, ou en tout cas la gestion de la crise islandaise intéresse certains milieux économiques, intellectuels, parce que, on va dire, le peuple islandais a essayé ou a choisi de prendre une voie qui est un peu différente de celle de différents peuples européens. Mais tu me dis que l'initiative vient un peu donc du côté français. Est-ce que cette crise islandaise et la gestion de cette crise islandaise est connue ici en République tchèque? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse?
En fait, cette crise, ça se passait partout. Et on a juste pris l'Islande parce que c'est un pays très petit. Les impacts se sont montrés assez tôt. Mais ça peut intéresser n'importe qui est frappé par cette crise. Et pourquoi c'est venu depuis la France? Parce que le réalisateur, il vit en France depuis 8 ans. Et lui, il a son regard un peu national et étranger en même temps. Alors c'était pour ça. Mais sinon, je crois que le film peut pas de chaque pays en Europe.
En même temps, quand je parlais de gestion de la crise islandaise, c'est que l'Islande, après coup, est, je crois jusqu'à présent, le seul pays où le peuple islandais a refusé de renflouer les banques, et a refusé de suivre ce système que tous les autres pays ont suivi après cette première crise dite des subprimes. Au moment où vous étiez là-bas, c'était peut-être pas encore d'actualité, ou quelles étaient un peu les conditions en 2008?
la crise, ça se passe toujours, en fait, c'est pas fini. Mais depuis 2010 ou 11, on commence à gérer ce Ice Safe qui était pas que islandais, ça c'était pas problème islandais, mais à travers l'autre nation, alors notamment Danemark et Hollande. Alors oui, en ce moment quand on était là, c'était pas vraiment l'actualité, mais Islande il est assez indépendant parce qu'il a pas l'euro. Il y a une couronne islandaise, alors l'économique c'est un peu indépendant, alors l'État peut gérer assez bien indépendamment.
Je vais revenir sur ce travail de faire des films documentaires et dans ton cas de produire. On peut remarquer à Yerlava et j'imagine ailleurs qu'il s'agit très souvent, et c'est le cas de Islande Année Zéro, de coproduction franco, italo, tcheco, etc., etc. Est-ce que c'est toujours indispensable ou c'est un choix ou c'est une contrainte de faire toujours, de travailler toujours de cette façon-là ou presque toujours?
Alors, pour la République tchèque, il faut dire qu'il faut faire ça presque toujours parce que malheureusement, on n'a pas assez de soutien pour pouvoir faire le film documentaire de création. Notre film a duré 4 ans alors, et notre réalisateur, il n'est pas tchèque. Alors, c'est vraiment presque impossible de trouver des financements. Mais en France, c'était la coproduction qui s'est très bien passée. Même on n'a pas trouvé beaucoup d'argent pour faire le film et le résultat est très bon et en fait le financier principal sont venus de la France parce que à la République tchèque c'était pas possible de trouver assez de budget.
Le film, moi, les images que j'ai vues, c'est aussi très beau, très esthétique. J'imagine que l'Islande ou le paysage islandais s'y prête pas mal aussi. Il y a ce côté un peu mystérieux. Est-ce que tu peux un peu nous parler des réalisateurs de Magnusson et d'Armand Chalonami?
Chalonami, oui. Alors, les deux réalisateurs auteurs viennent de la fiction et je crois que ça peut se voir dans le film. On utilise la narration de narration cinématographique qui est plutôt utilisée dans la fiction. Et ce film, l'année zéro, Islande année zéro, c'était le premier film documentaire de deux auteurs. Sinon, ils sont les deux très expérimentés dans la fiction et des films expérimentaux qui utilisent beaucoup d'expressions cinématographiques. Je crois que ça se voit très bien dans le film aussi. C'est des très beaux images.
Alors, le film a été présenté samedi, la soirée de samedi, dans le cadre du festival de Yerlava. En tout cas, il a été projeté à Yerlava pendant ce festival de films documentaires. Comment s'est passée la projection et puis qu'est-ce que ça représente pour ce film d'être projeté à Yerlava?
Pour nous, être à Yerlava, c'était vraiment important parce qu'on a présenté ce projet pendant un pitching forum à Yerlava en 2009. Et cette année, j'ai eu le plaisir de pouvoir faire la première à Yerlava. Ça s'est très bien passé parce que la salle de projection était complètement pleine. Les gens sont été contents et j'ai eu plein de questions après la projection. Alors c'était super en fait. Et la prochaine projection va se passer dans un mois à Jakarta, en Indonésie.
D'accord. Et puis je rajouterai moi en conclusion qu'il a été nommé dans la compétition Silver Eye, c'est ça? C'est Jakarta ou...
Ouais, on était nominé dans la compétition Silver Eye. Et aussi on était accepté pour le East Silver Caravan, où il n'y a que 30 films par année choisis comme les meilleurs films de l'Europe de l'Est. Bon. Notre film n'a pas vraiment d'autres relations avec l'Europe de l'Est que moi, mais quand même, on était choisis.
Anne-Claire Velier vous a présenté dans le cadre de la rubrique Panorama la productrice de films documentaires Veronika Janatkova. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.